90.3 FM vous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous faisons appel à votre générosité. Si votre situation vous le permet, nous vous invitons de vous rendre sur notre site web sécarité.ca et de faire un don en appuyant sur le bouton vert de donation ou d'envoyer un chèque par la poste à Radio Sécarité 3640.
Vous êtes sur les ondes de Sécarité 90.3 FM à Montréal. Ça, c'est Free City Radio. Avec moi, Stéphane Christophe. C'est le 11 novembre 2020. Et aujourd'hui, dans l'émission, j'ai visité un paysage sonore qui est basé sur une expérience d'un artiste qui rejoint les manifestations pour les justices dans les derniers mois dans cette ville. Ben, pour commencer, en fait, c'est une autre chose. C'est une discussion avec un militant pour un long temps dans cette ville et aussi ailleurs. C'est un militant autochtone, Joanne Berger, qui travaille beaucoup dans le Nord avec les communautés inuites et Innu. Joanne est vraiment active pour beaucoup des années dans les luttes contre le racisme ici à Québec. Joanne est impliquée aussi dans les luttes pour faire les pressions sur les gouvernements de Québec et les gouvernements canadiens pour donner plus de droits de territoire et aussi droits humains en général pour les peuples autochtones. Ça, c'est une discussion nous fait dans le contexte de toutes les discussions qui existaient aujourd'hui à Québec sur le racisme systémique. Joanne visitait cette discussion avec une perspective autochtone. Ça, c'est Free City Radio sur les ondes de CKUT, 90.3 FM à Montréal.
Oui, c'est important parce que pour faire avancer la lutte, pour être vraiment en alliance avec les Premières Nations et puis pour faire en sorte que leur propre lutte avance, faut être conscient de notre propre de notre propre attitude parce que ça je veux pas stigmatiser aucun de mes collègues que ce soit dans le milieu, même policiers ou quoi que ce soit dans le Grand Nord, parce que ils sont certains, beaucoup d'entre eux appliquent des politiques. Le problème pour changer, c'est s'attaquer aux politiques, des politiques. Les médias ici transportent. Les médias ici, quand on... Tous les articles que j'ai vus sur le Grand Nord, sur les Inuits, c'est ils sont trop, ils sont trop nombreux. Les adolescents font des enfants, et tout ça. Sans statistiques, sans études et tout. Et ça amène que jusqu'à maintenant, on force encore le dépôt Provera de manière at large, on les force. Mais là, ils sont de plus en plus éduqués. Les jeunes sont de plus en plus éduqués. Ouais. Mais jusqu'en 96, il a fallu se battre parce qu'il y avait forcé quasiment. Ça a pas été dénoncé. Il y a un médecin qui forçait. Il intimidait les jeunes femmes jusqu'en 96 avec du Norplan, du Norimplan, avec du dépôt Provera. Et quand après ça, on a réussi à éliminer ce docteur-là, à l'éliminer de cet endroit-là, on s'est jamais excusé. On a continué avec, on a changé la cliente, les travailleurs ont changé, les travailleuses, avec qui, pas au courant de la situation, eh ben ils ont continué, mais en poussant le dépôt Provera sur l'idée que le problème, c'est qu'il y a trop de monde. Mais la population meurt à 60 ans, même pas. C'est fulgurant. S'il n'y avait pas d'enfants, s'il n'y avait pas de jeunes, la population serait morte, serait disséminée. C'est peut-être, dans des villages, c'est 75 % de 25 ans en bas. Alors quoi? On serait content si on réduisait la population comme ça? Ben, on aurait un problème de moins. Il n'y en aurait plus. Alors, quand on parle de ça, il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle de oui, il y a beaucoup d'enfants, il y a une jeunesse, mais ça meurt jeune. Comment ça se fait qu'en 2019, au Québec, on ne se pose pas cette question-là? Ils sont supposés être au Québec, ils meurent jeunes. On ne se pose pas cette question-là? Non. On dit la situation est mieux, peut-être. J'ai lu la situation est beaucoup mieux qu'elle était il y a des années. Je regrette. Peut-être qu'ils se battaient pour la vie, mais il y a un sens à leur vie. Le sens à leur vie, c'était la chasse, se nourrir et nourrir les leurs, et ensemble de survivre au climat. Aujourd'hui, c'est le suicide. Je regrette. Il n'y avait pas des suicides à pelleter comme il y en a là. Il y en a minimum un par mois. Ça, c'est depuis que je suis là en 95 qu'il y a au moins un suicide par mois qu'on sonne l'alarme. Tu sais? Et puis, alors, c'est pas vrai qu'il y avait un suicide par mois dans le temps des années 1800 et début du 20e siècle. Sinon, ils n'existeraient plus. Tu sais, au nombre qu'ils étaient, ils n'existeraient plus. Alors, tout est, on sort des raisons qui fait qu'il y a des problèmes sociaux, on associe ça, mais jamais, jamais on regarde nos politiques. Nos politiques dans tous les domaines sont carrément racistes. Prenons la politique, par exemple, il y a eu une tentative de vouloir mettre sur pied un gouvernement supposément autonome dans Nunavut, dans Nunavik, comme le Nunavut. Jamais de la vie. Hey! Puis, le pire de tout, c'est qu'on n'a jamais dit que les Inuits sont très intelligents. Parce qu'ils ont voté contre majoritairement. J'étais dans tous les villages. On a voté contre à grande majorité. Pourquoi? Premièrement, Charest avait très bien dit, ce ne sera pas un gouvernement Inuit. Donc, on savait qu'une grosse partie de ceux-là, ça serait des gens du Sud qui seraient fait partie de la... Déjà dans la commission, il y avait des gens du Sud. Premièrement. Deuxièmement, aucune référence à l'économie, aucune référence aux ressources naturelles, rien. Tout allait dans la sécurité, police, l'éducation et la santé, qui sont déjà très contrôlés par le Sud, par le Québec, extrêmement contrôlés, complètement dépassés financièrement, complètement finis, des éléphants blancs. Les Inuits allaient prendre ça? Sans économie, sans rien, sans ressources? Pas accès à l'eau, pas accès à l'eau potable qu'on a polluée, pas accès à rien, aux routes, pas accès à rien, mais seulement à se débrouiller avec avec trois départements qui sont complètement corrompus, complètement par nous. OK? Ben, voyons donc. T'sais, ils ne sont pas fous, ils ont voté contre ça. Mais c'est vous, qu'est-ce qu'on répond à ça? On dit, les Inuits n'étaient pas prêts, ils ne sont pas assez. Mais on n'est pas capable, on veut pas. On va là. Moi, j'ai suivi des cours. On va deux semaines dans un village sur 10 ans et on écrit 500 pages de livres, sans interviewer personne qui a vécu là. Il y en a des gens qui ont vécu là des années, qui connaissent des réalités, qui sont en contact avec ces gens-là. Et il y a des Inuits capables d'expliquer leur situation. On va piger qu'est-ce qu'on veut entendre. Mm-hmm. Alors, quand on regarde les conclusions, on le voit bien. On le voit bien. On le voit bien que ça ne fonctionne pas. Si les Inuits ont voté contre ce gouvernement-là de manière majoritaire, c'est pas parce qu'ils sont toute une gang d'imbéciles. Ça se peut pas. Alors, on ne se posera pas la question.
Et vous êtes passé beaucoup de discussions avec les gens parce que vous êtes passé beaucoup de temps avec les communautés Inuits. Et qu'est-ce qui se passe avec votre dialogue direct dans les terres avec les gens dans ce domaine de résistance politique?
Je pense que pour moi, tout le temps que j'ai passé là, même à travailler et tout, ça a été constamment, d'essayer de voir comment on peut contrecarrer certaines de ces politiques-là dans le domaine de la santé, là où j'intervenais, contrecarrer de manière... en discutant avec eux, toujours en discutant, jamais en imposant, même si je voyais des choses qui m'affectaient, toujours en leur mettant la réalité telle que j'avais accès à cette réalité-là, à ces politiques-là, je les connaissais, donc je pouvais les transmettre. Alors j'ai eu la chance de pouvoir transmettre à énormément d'Inuits toutes ces recherches-là, toutes ces politiques-là que j'ai entendues, mm-hmm. et j'ai pu discuter avec beaucoup d'entre eux. Donc, les positions que j'ai maintenant ont été validées. Okay. Comme si je dis la raison pour laquelle les Inuits n'ont pas voté pour l'accord Nunavik autonome, supposément autonome, c'est validé auprès d'Inuits qui sont conscients de cette réalité-là, qui eux-mêmes en sont venus à cette conclusion-là. Et j'étais là, j'étais dans les bureaux où on votait et je discutais avec eux. Donc, j'entendais, on a discuté ensemble, j'ai compris, j'ai pas tout appris par moi-même, mais j'ai validé j'ai eu la chance de pouvoir valider en discutant avec eux. Donc, ils sont conscients. Ils sont conscients de... Beaucoup sont conscients, énormément. Le problème est, je pense, comme à travers Il y a des mouvements de riposte, il y a toutes sortes de tentatives. On y va légalement, les gens y vont illégalement. Comme par exemple, à un moment donné, il y a eu des articles de journaux au Québec très discriminatoires, racistes, qui dépeignaient les Inuits comme des inhumains, des sous, des... Alors, ils sont allés en cour et croyez-le ou non, ils ont perdu. Même qu'il y avait une image évidente d'un Inuk enragé, en gros plan, dans le journal La Presse, je crois, ou Le Devoir, je me souviens plus, un gros plan, un Inuk enragé, quasi fou, dont le corps était un chien, en forme de chien. Et qui sortaient comme ça de la toundra. Alors, ils ont dénoncé ça, ils sont allés en cour, ils ont perdu au Québec. Ils sont perdus au Québec, comme quoi c'est pas raciste, c'est une manière de voir, c'est artistique. Alors, vous voyez, je veux dire, c'est pas facile ici. Je suis pas certaine qu'à l'extérieur, ils n'auraient pas gagné leur cause s'ils n'avaient pas allé plus loin. C'est vraiment, 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 vraiment fermé de dénoncer le racisme ici.
Joanne Borchée. Joanne parlait dans cette moment à l'émission sur l'expérience dans les territoires. Joanne travaille dans les secteurs de santé, dans la Nord, en fait, dans les communautés Innues et Inuites. Joanne a beaucoup d'années d'expérience dans ce territoire. Et je pense, dans les contextes de les discussions de les mouvements Justice for Joyce, j'ai sélecté cette interview que j'ai fait avec Joanne Borchée en 2019 à les stations radio CKUT. Ça, c'est Free City Radio sur les ondes de CKUT 90.3 FM. C'est le 11 novembre. Je suis Stéphane Christophe. Je suis avec vous jusqu'à 11h30 sur Free City Radio. Merci pour votre participation à l'émission aujourd'hui. Les prochaines choses que j'ai partagées avec vous, c'est une pièce musicale de l'artiste Angleterre, s'appelait Rival Councils. Ça, c'est Dreamer's Wake. C'est une vraiment beau chanson électronique. Ça, c'est le track Dreamer's Wake de l'artiste Rival Consoles, basé sur Angleterre. Et ça, c'est Free City Radio sur les ondes de CKUT 90.3 FM à Montréal. Merci pour rejoindre nous aujourd'hui. La prochaine chose dans l'émission aujourd'hui, c'est un paysage sonore et audio postcard par Esther Bordage. C'est une pièce sonore qui visitait les voies pour les justices et les moments politiques dans les villes avec des gens qui ressemblaient en solidarité. Esther dit « Pensez sur les rythmes dans les paysages sonores qui basaient sur les enregistrements dans les villes de Montréal dans le contexte de la pandémie 2020. Et dans ce contexte, beaucoup de gens éprimaient les luttes et demandaient les choses, ou spécifiquement les statuts pour tous et toutes, pour les sans-papiers, et aussi les mouvements Justice for Joyce qui demandaient la justice pour les autochtones et aussi protester le racisme systémique. Elle pensait sur une quotation de la chanteuse Maggie Nichols qui dit « I still feel that improvisation reaches out, breaks down barriers, challenges frontiers. Music is about liberation, jazz is about liberation. That's the word to focus on. » Ça, c'est une petite phrase de Maggie Nichols, sélectée par Esther Bordage, qui présentait les prochains paysages sonores sur cette émission radiophonique Free City Radio sur les ondes de 90.3 FM à Montréal.
Les travailleurs aux migrants ont toujours été soumis au Que M. Legault est là en mission. Si M. Legault veut faire des réformes, je l'informe, il y a plein de nids de poules à Montréal. Si M. Legault veut faire des réformes, je l'invite à aller voir dans nos CHSLD toute l'horreur qui s'y passe. Si M. Legault veut faire des réformes, qu'il aille dans nos hôpitaux, car les Canadiens et les Québécois sont fatigués d'attendre 6 heures aux urgences. Si M. Legault veut faire des réformes, vous avez au parc de Milligan-Gamelin, vous avez plein de centaines de tolérances qui sont abandonnées et laissées pour prendre. Si il veut faire des réformes, il y a tout cela à faire. Tous les travaux de merde au Canada. Vous pouvez aller dans les champs, vous trouverez des chances sur des travaux temporaires qui se battent pour que le Canadien ait à manger. Est-ce que vous trouvez normal, aujourd'hui qu'en période de pandémie, que des personnes soient infectées de la COVID-19 et ne puissent pas se soigner parce que le gouvernement refuse de leur octroyer une couverture sociale? Est-ce que vous pensez, vous trouvez que cela est normal?
Non!
J'entends rien. Est-ce que vous trouvez que cela est normal?
Non!
Est-ce que vous trouvez normal que M. Trudeau distribue la PCI, qui est la prestation canadienne d'urgence, à tout le monde, pendant que les sans statut et autres personnes du même groupe qui sont aujourd'hui, qui constituent la couche la plus vulnérable au Canada, soit laissé pour compte? Est-ce que vous trouvez cela normal?
Non!
Alors, nous sommes ici pour dire à M. Trudeau que nous voulons une chose simple. Nous voulons la régularité. Thank you.
Ça, c'est un paysage sonore de Esther Bordage, une artiste sonore ici dans les villes, qui donnait cette pièce spécifiquement pour Free City Radio aujourd'hui. Je suis Stéphane Christophe, je suis avec vous tous les mercredis 11h jusqu'à 11h30. J'ai partagé des entrevues, les paysages sonores, les musiques qui visitaient beaucoup de sujets sur les luttes pour les justices sociales dans les contextes locaux, aussi dans les contextes globaux. Merci pour visiter notre émission aujourd'hui. C'est une semaine après les élections présidentielles dans les États-Unis. C'est un moment vraiment important pour tout le monde, en fait. J'espère que c'est vraiment vrai, en fait. Trump est fini, j'espère. Merci encore pour votre présence. Les prochaines émissions s'appellent les F-Files. Et c'est avec vous. Et cette émission, c'est avec vous dans quelques secondes. Juste après ça, en fait, j'ai joué une partie d'une pièce musicale par Rival Consoles.
Exploring feminism and technology through space and time.
Good morning. You are listening to the XX Files on CKUT 90.3 FM. It is 11:34 on Wednesday, November 22nd, and we are live in the studio. It's Jules Gould. We've got a very special guest with us today, Suzanne Kite, a.k.a. Kite. So Kite, a.k.a. Suzanne Kite, is a Oglala Lakota performance artist, visual artist, and composer raised in Southern California. She holds a BFA from Cal Arts in Music Composition, an MFA from Bard's College's Milton Avery Graduate School, and is currently a PhD candidate at Concordia University. Her research is concerned with contemporary Lakota mythologies and epistemologies and investigates the multiplicity of mythologies existing constantly in the contemporary storytelling of the Lakota. Explored through research creation, computational media, and performance practice. Recently, Kite has been developing a body interface for movement performances,